ça remplace le besoin d'alcool, remplace l'anxiété, diminue des états d'anxiété, des états de nervosité, on ne sait pas quoi faire. Ben justement, quand on ne sait pas quoi faire, on fait ça. Et alors là, on peut faire du n'importe quoi.
Ça, c'est clairement une forme de thérapie non médicamenteuse et très utile dans le cadre d'un burn-out.
À chaque fois, j'ai pris quand même du plaisir, ne fût-ce qu'à écouter les autres, comment ils parlent, comment ils interprètent certaines choses. C'est toujours très intéressant et j'y puise pas mal de choses. Ça permet aussi de moins se dévaloriser soi-même.
Non, j'y suis épanoui, tout comme ça m'est nécessaire, mais c'est à chaque fois un plaisir. Ça m'a aidé à avoir de l'estime pour moi.
J'aime le théâtre. Et je suis là pour une thérapie, donc le mariage entre les deux me paraissait naturel.
La pratique de théâtrothérapie dans les hôpitaux a vu le jour en Belgique grâce au thérapeute Serge Minet. Vers la fin des années 90, il crée un atelier de théâtre thérapeutique au sein du centre hospitalier universitaire de Brugman à Bruxelles pour les patients en psychiatrie. Fort de son succès, l'atelier existe toujours aujourd'hui malgré le départ à la retraite de Serge Minet. Hélène Lespinet, ergothérapeute au CHU, a repris l'animation de cet atelier. Les avis des thérapeutes sont unanimes. La théâtrothérapie est utile pour les patients en psychiatrie. Elle permet notamment l'émergence de l'inconscient. Mais quels sont les avis des patients sur la question? La théâtrothérapie leur apporte-t-elle un mieux-être? Cet atelier fait-il partie de leur processus thérapeutique? Nous nous sommes rendus au CHU de Brugman tous les mercredis pendant 6 mois pour recueillir les impressions des patients sur l'atelier de théâtrothérapie. Pour des raisons de confidentialité, les prénoms de certains patients ont été changés. Nous avons également tenu à préserver leur intimité en ne les enregistrant qu'à l'intérieur d'un local prévu pour l'occasion. Nous n'avons donc pas pu enregistrer les scènes jouées pendant les ateliers de théâtrothérapie. L'atelier est donné à Brugman au sein de l'hôpital de jour Paul Civadon qui accueille des patients en hospitalisation le temps d'une journée.
Notre spécificité, c'est les groupes de parole le matin et les activités l'après-midi.
Frédéric Greland, médecin résident à l'hôpital de jour Paul Civadon.
Donc il y a toujours eu des activités médiées par l'art en tout cas, et avec des projets. Moi j'ai été stagiaire ici il y a plus de 10 ans, je suis ici depuis 4 ans maintenant. Donc il y a toujours eu, moi quand j'étais stagiaire, on avait créé les cycles à l'époque, ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une semaine bloquée où les patients se mélangent non pas en fonction des groupes desquels ils font partie, mais en fonction d'une activité qu'on essaie que ça soit de leur choix. Et donc ça, on a fait à l'époque. Donc là, on était déjà dans une dynamique plutôt de thérapie à médiation artistique pendant une semaine. Donc nous, on avait créé avec Dany, notamment avec Dany Bossu, un cycle qui s'appelait Peinture et Parole, donc qui comportait pas vraiment de la créativité, mais autour de la créativité, donc des collages, du dessin, de l'autoportrait, une visite au musée et de la verbalisation. Donc là, on était plus dans une dynamique, effectivement, de ce qu'on appelle de l'art-thérapie, enfin, en tout cas d'un support artistique pour permettre quelque chose de l'ordre de la verbalisation thérapeutique. C'est vrai que je suis arrivé avec une dynamique de... on va utiliser encore davantage l'art dans les projets.
Les ergothérapeutes de l'hôpital sont en charge des activités artistiques de l'après-midi. Les ateliers sont nombreux à l'hôpital de jour. La peinture, le théâtre et même la danse récemment attirent les patients. Ces ateliers à vocation art-thérapeutique sont même nécessaires selon Thierry, 48 ans, patient à Brugman depuis 2 mois pour soigner sa dépression.
Ça me paraît extrêmement important parce que le travail que nous faisons le matin en module est tellement intensif, tellement riche, tellement lourd, tellement introspectif et tellement pesant, aussi bien positif qu'en négatif. En tout cas, c'est pas neutre et ça permet de décanter tout ça, tout en restant dans le cadre du centre et donc en continuant à s'occuper de soi. Ce qui est différent si on sort d'ici et qu'on retourne dans le monde des fous, là, où il faut s'occuper d'un milliard de choses et on s'oublie. Ici, on peut le faire pour soi. Et ça défoule, en quelque sorte.
Le travail thérapeutique qui se fait à l'hôpital de jour Paul Civadon est effectivement assez dur, psychologiquement. Les patients présentent des problématiques lourdes, telles que des problèmes de dépendance ou de dépression grave. Sylvie, qui suit un traitement de 6 mois au CHU, nous parle de sa souffrance.
Je suis là pour différentes raisons, parce que j'ai commencé en fait un travail sur moi il y a un an, avec une psychiatre, parce que j'ai eu une enfance assez difficile. Donc, j'ai eu affaire à un pédophile pendant 2 ans, de mes 8 à 10 ans. Donc, ce qui fait que dans mes relations après, je suis toujours tombée sur des dominateurs. Et je suis tombée dans l'autodestruction.
André, lui, est présent pour d'autres raisons.
En fait, je suis ici dans la section alcoolologie, mais en réalité, je souffre initialement d'un burn-out. Et un burn-out qui vient d'un manque d'assertivité et d'un manque d'expression des émotions. En gros, c'est s'exprimer, mettre des limites, entre guillemets, s'imposer face aux autres. Une des clés de succès pour changer, c'est justement, pardonne-moi l'expression, c'est un peu de se mettre un coup de pied au derrière. Mm-hmm. Et donc, j'avais choisi initialement le karaoké et puis la théâtrothérapie. Et donc, justement, pour apprendre à identifier des émotions et, si possible, dans une deuxième phase, à les exprimer.
Tous les mercredis, pendant sa pause de midi, Hélène Lespinel, animatrice de l'atelier de théâtrothérapie, aère la pièce où aura lieu l'atelier, aménage la scène, prépare quelques fauteuils pour le public et sort la malle à costume afin que tout soit prêt pour le début de l'atelier à 14h. Certains patients, comme Annick, présente pour dépression, attendent d'ailleurs ce moment avec impatience.
Donc finalement, le mercredi, c'est toujours une bonne journée de la semaine, en fait.
C'est la bonne journée de la semaine.
Je sais en tout cas que quand j'organise ma semaine... C'est le seul atelier de la semaine dont je connais le jour. Et j'organise ma semaine en fonction de ça.
Si Annick et Thierry sont des habitués de la théâtrothérapie, Stéphane, qui soigne des problèmes de dépendance à l'alcool, n'avait jamais eu l'occasion de participer à un atelier.
La théâtrothérapie, j'en avais jamais entendu parler. Et je me disais, c'est peut-être une chose qui pourra peut-être m'aider. C'est la seule chose, en fait, que je ne connaissais pas. Et je dis, tiens, là, je vais une fois aller voir ce que ça va donner. Avec des appréhensions, et je le regrette absolument pas.
Je pense que j'ai tout appuyé sur le bâton du roi.
Bienvenue à l'atelier de théâtrothérapie. Donc c'est un atelier où nous allons vous proposer de jouer, de faire des jeux d'improvisation théâtrale, ceci sur base de votre imaginaire. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de créer des personnages. Un personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas notre nom, qui se comporte d'une manière différente, qui peut avoir...
Avant chaque séance, Hélène Lespinel présente l'atelier. Un deuxième thérapeute est toujours présent. Pendant les séances. Il s'agit d'Étienne Zaït, psychologue à l'hôpital de jour Paul Civadon. Il était déjà celui qui assistait Serge Minet dans son travail de théâtrothérapeute, il y a une dizaine d'années. Son rôle est cependant un peu différent de Serge Minet et d'Hélène Lespinet.
Par rapport à Serge et puis par rapport maintenant à Hélène, c'était eux les théâtreux, disons ça comme ça, qui sont plus les gens qui font du théâtre. Et moi, je suis venu... pour avoir un regard semi-extérieur. Mais il était double, hein, parce que moi, quand je suis arrivé, par rapport à Serge, je connaissais mieux les patients. Je connaissais tous les patients. Je connaissais tous les entrants. Donc, je pouvais parfois modérer des interventions théâtrales qui pouvaient être, par rapport à des personnes qui arrivent. Mais c'était ces points-là. Puis, j'ai dit, à l'intérieur même, j'avais une position par rapport au théâtre, j'étais plus celui qui avait un peu une lecture psychologique des choses. Je ne me considère jamais comme théâtre-thérapeute, hein, je dis toujours, je suis psychothérapeute qui fait du théâtre. Hein, donc, mais j'essaye de garder la position du psy-neutre, comme ça.
Pour ce dernier, l'objectif de la théâtrothérapie est de créer un effet de surprise.
C'est-à-dire que quand ils sont surpris, quand ils ne s'attendent pas à quelque chose, ils réagissent d'une manière qui n'est pas gérée par leur conscient, par leur surmoi, mais des éléments inconscients qui peuvent émerger, qui peuvent les surprendre eux-mêmes, et après on peut les reprendre. Voilà, un patient qui dit « moi je vais jouer tous les rôles ». Donc il jouait celui qui s'est un père, qui se fâche sur son fils, mais il dit « Je veux montrer que je peux jouer tout. » Mais il voulait jouer tous les rôles. Mais ce qu'il voulait, il voulait tout maîtriser. Lui voulait maîtriser. Qu'on ne vienne pas avec quelque chose pour les surprendre. Alors, je me rappelle, la première fois, tu laisses faire. Et puis, la deuxième fois, il joue comme ça une scène. Et puis, je dis, maintenant, on va essayer de jouer. Toi, tu vas jouer juste celui-là. et puis on va demander à quelqu'un de jouer un autre. Et tout devient différent, évidemment, parce qu'il ne les maîtrise pas. Donc, il y a une volonté de maîtriser. Alors, les problèmes du travail psy, c'est que le contrôle, il va à l'encontre du travail psy. La surprise provoque un autre type de fonctionnement psychique. Comme quand nous vivons des surprises, hein, nous réagissons pas d'une manière habituelle, et souvent nous réagissons d'une manière incontrôlée, parfois d'une manière qui reflète plus notre vérité profonde. Hein. Et puis ça peut arriver que les gens sont transformés, ils ont un autre timbre de voix, ils parlent autrement, ils se présentent. Actuellement c'est Sylvia, par exemple. Quand elle parle en groupe ou quand elle parle au théâtre, c'est deux mondes, c'est comme si c'était deux personnes.
Étienne Zaït nous explique une autre situation qu'il a vécue.
C'est un patient que j'ai vu en candidature. Quand il était en candidature, il avait peur de son nom, il parlait, il chuchotait quand il parlait. Et puis dans le module, c'était pareil, il était comme ça, en groupe. Et puis il est venu au théâtre. On aurait dit Pavarotti, tellement il avait la voix qui portait. Donc, et tu dis, c'est pas. Ils font pas la comédie.
Pour Hélène Lespinet, la surprise créée par le jeu d'improvisation va permettre la prise de conscience d'une faille ou d'une souffrance que le patient n'arrive pas à identifier autrement.
Je pense que ce qu'on fait à l'atelier théâtrothérapie, c'est aider à faire des liens avec un vécu, parfois difficile à vivre, et un jeu de scène qui peut aider à, un peu comme une loupe, un peu montrer des choses qu'on a du mal à voir dans sa propre vie. C'est un travail plus d'émergence, hein. On aide à faire peut-être émerger à la conscience certaines difficultés qui empêchent à vivre sereinement. Utiliser l'imaginaire pour parler de soi, pour parler de quelque chose de soi. J'utilise ici l'outil théâtre comme un outil, donc pas comme un art à proprement parler, mais comme un outil d'expression.
Avant l'atelier de théâtrothérapie, les patients prennent les forces pour récupérer au réfectoire. Ensuite, ils se rendent auprès d'Hélène Lespinet qui, avant de laisser place au jeu de scène, tient à rappeler les différents lieux qui composent la théâtrothérapie.
Le premier lieu, c'est la scène. La scène, évidemment, c'est le lieu où le jeu va se dérouler. Le fond de scène étant délimité par ce rideau noir que vous voyez là-bas au fond. Vous voyez cette ligne blanche juste à l'avant de la scène, cette ligne blanche qu'on vous demandera de ne jamais traverser.
En scène, avant qu'on lève le rideau, déposons là tous nos fardeaux, nos peines. Et retrouvons nos oripeaux, ils sont plus vrais que notre peau. Ils viennent faire de nous des éphémères, capables de tous les frissons, d'apprivoiser mille chimères, et puis le temps d'une chanson, d'être Arlequin ou Cléopâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre?
La scène est donc délimitée par les coulisses et la ligne blanche qui symbolise la frontière entre le monde du réel et le monde de l'imaginaire. Sur scène, les patients peuvent donc jouer des situations complètement irréelles.
Alors le deuxième lieu après la scène, c'est les coulisses. Et les coulisses, bien c'est le lieu de fécondation du personnage. C'est le lieu où vous allez pouvoir prendre le temps, hein, coupé du regard du public, vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir à votre personnage, de penser à comment il va être ce personnage. Et puis, voilà, c'est vraiment cette transformation vers un personnage. Quand vous avez pris ce temps-là, eh bien, je vous proposerai de frapper avec le bâton du roi en faisant 7 coups, puis 3 coups. Je suis là.
Arnaud souffre de dépression et Daniel lutte contre les démons de l'alcool. Ils nous parlent de leur expérience et de ce moment vécu dans les coulisses.
C'est vrai que je prends le temps de me concentrer avant de monter sur scène. pas parce que j'ai peur, mais parce que j'essaye de savoir qu'est-ce que je vais exprimer le mieux possible. Donc je vais essayer de trouver ce qu'il y a de mieux, mais pour ça je dois creuser le maximum.
Et c'est vrai que ce que disait Hélène, quand on passe derrière les coulisses, c'est là qu'on se crée son personnage, c'est là que... En plus de ça, on écoute ce qui se passe de l'autre côté, donc on a de la vie.
Alors après, la scène, après les coulisses, le troisième lieu, c'est ce qu'on appelle le lieu du paroli. Ce lieu que vous voyez là devant la scène, hein, vous voyez quatre petits fauteuils, eh bien c'est un lieu où vous vous asserrez après la scène, hein, les acteurs s'assoient sur ces petits sièges, et c'est un lieu de partage, on va échanger sur ce qui a été joué sur scène. Le quatrième lieu, eh bien, c'est tout simplement les chaises sur lesquelles sont assis les spectateurs. On dit spectateurs parce qu'ils sont acteurs dans leur manière de regarder, de voir la scène qui se déroule, et notamment dans la manière de partager leur vécu au niveau du paroli avec les acteurs.
Les travaux thérapeutiques avec les spectateurs, il est en fonction de ce qu'ils vont dire. Ce qui a été vu est parfois plus interpellant que ce que les gens ont vécu sur scène même. Hein. Les personnes qui ne montent pas sur scène, mais qui vivent les choses et qui disent des choses d'une telle... Il leur donne tellement l'importance, t'as l'impression que le travail s'est fait encore plus avec eux.
Tout comme Étienne Zaït, Michel, qui soigne une dépression, considère le temps du paroli comme essentiel. Partage, miroir, émotion et action, autant de mots qu'utilisent Michel, André, Thierry et Sylvie pour décrire le temps du paroli.
Les autres peuvent participer justement en disant ce qu'ils en pensent. Même les gens qui ne montent pas sur scène sont là et ont subi des choses parfois dramatiques qui se passent sur scène et qu'on a peut-être vécu également. Donc même si nous, on ne veut pas endosser un rôle qu'on n'a pas envie de revivre, ben, parfois les acteurs nous font revivre certains moments et donc nous permettent aussi par après peut-être d'évoluer.
Pour moi, c'est important parce que c'est le seul moment où j'interagis de façon active. Mais malgré tout, à certains moments, je ressens des émotions exprimées là-bas.
C'est intéressant de voir le ressenti différent des personnes et ça permet de s'améliorer ou de jouer différemment.
Le miroir que sont les autres est très important aussi dans le travail.
Afin que le jeu de scène se déroule dans de bonnes conditions, Hélène Lespinet a mis en place une petite règle.
Cette première règle, eh bien, je la symbolise par un son de cloche, par donner à la vache à qui j'ai piqué cette cloche.
Ce son indique aux patients qu'ils doivent arrêter leur jeu de scène car il y a un risque de passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est le fait de porter atteinte à sa propre intégrité ou à celle de l'autre. Il s'agit de ne pas se faire mal physiquement, ni d'insulter son partenaire.
Voilà maintenant, eh bien, je vous propose de commencer l'atelier. Le bâton du roi est ici dans ma main et la personne qui aurait envie de jouer une scène est la bienvenue pour le prendre et aller frapper 7 coups et 3 coups.
Mais ce n'est pas toujours facile de monter sur scène, comme en témoignent André et Stéphane.
Bon, la première fois, je pense qu'il y a peu de monde qui monte, ouais. Sauf des gens qui ont déjà pratiqué. Donc la première fois, c'est sans doute ça la raison. La deuxième, il y a eu ce fameux bras cassé qui m'a un peu fragilisé, donc j'hésitais. Puis alors, il y a des raisons plus personnelles. Je ne me sens pas réellement capable d'être satisfait par rapport à moi-même et de donner quelque chose de satisfaisant. Donc. Et puis, surtout la deuxième fois avec le traitement médicamenteux, je ne me sentais pas suffisamment en veine d'inspiration. Je dirais.
Avec les différentes scènes qui se sont... l'attention descendait, mais le pas d'oser d'aller avec une idée en tête derrière
le rideau.
Oui. Et venir avec une idée, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore osé la franchir.
Parfois, je peux monter aussi sur scène. Soutenir aussi le jeu de la personne quand je sens qu'il y a un peu trop de souffrance dans ce qu'elle amène et que finalement, les autres patients ne se sentent pas vraiment prêts à aller jouer dans cette souffrance-là.
Hélène Lespinet peut également monter en première sur scène si personne ne se décide ou si elle veut provoquer un patient dans une situation particulière.
Hélène est montée sur scène et puis tu l'as rejoint. Tu l'as sentie comme un appel, en fait, finalement.
Oui, complètement. Puisque pendant Paroli, suite à la première scénette, j'avais exprimé certaines difficultés. Donc, quand Hélène est montée sur scène et qu'elle a mis en scène ou mis en situation ce type de difficulté, je me suis dit, voilà, c'est un appel du pied. C'est le moment de m'entraîner ou d'expérimenter ou de tester.
Après une séance, les patients ont besoin de s'aérer l'esprit, de se changer les idées, car ils ont souvent, comme Thierry, exprimé des sentiments difficiles, parfois même douloureux, selon Sylvie.
Il y a toujours, finalement, à chaque fois qu'on joue une pièce, une des petites failles qu'on a eues, comme là je disais, je dis, oh non, je me suis déjà fait avoir là, dans la pièce aujourd'hui. Je dis, bah oui, effectivement, je me suis déjà fait avoir, comme l'autre personne disait, bah oui, lui, il a connu le blanchiment d'argent.
Ça l'inspire pour jouer.
Voilà quoi. Donc il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une petite émotion, même si on part dans l'absurde et tout, qui vient de notre vécu, quand on est dans l'impro en tout cas.
Les théâtrothérapeutes de Brugmann préfèrent quand même souligner que pour certains patients, l'atelier en théâtrothérapie n'est pas recommandé.
Certains cas des psychoses, le fait d'entrer dans l'imaginaire, je ne parle pas de toutes les psychoses, peut être très délicat. C'est-à-dire, nous demandons aux gens d'être quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à des personnes qui ont une identité très incertaine, le moi-je est terriblement difficile. C'est quelque chose d'énorme pour certains psychotiques. Et tous les problèmes identitaires. Alors, leur demander d'être quelqu'un d'autre peut être terriblement dangereuse. Les troubles de l'imaginaire d'un psychotique peuvent le faire délirer.
Je dirais qu'en fait, ce qui est contre-indiqué, c'est une personne qui est en crise, qui n'est pas stabilisée, qui n'est pas prête à faire un travail introspectif dans le sens où c'est un travail qui pourrait faire des liens avec des choses trop douloureuses.
Les séances de théâtrothérapie sont donc des moments difficiles et tout le monde n'est pas apte à endurer un tel travail thérapeutique. Un travail pourtant important. Si les théâtrothérapeutes de Brugmann restent prudents sur le terme de guérison, certains patients se sentent, eux, transformés par la théâtrothérapie. Timidité, mal-être ou alcoolisme, on dirait que leurs mots sont significativement estompés.
J'étais quelqu'un de très timide et je pense que la théâtrothérapie m'a permis aussi de m'ouvrir et de pouvoir m'extravertir. Ça m'apporte un bien-être, c'est comme si je m'étais défoulée dans un sport.
En général, il y a un robinet qui a été ouvert par lequel s'est écoulé énormément de stress et je me sens très calme et serein après une séance.
Ça nous renvoie tellement de bien-être que quand on rentre chez soi, on est bien.
C'est pas juste le temps de la séance en fait.
Non, c'est pas juste la séance. Ça va au-delà de la séance. Ouais. Quand je rentre chez moi, je suis apaisée, je suis bien, j'ai un bien-être en moi et je suis vraiment cool, vraiment bien. Ça me fait oublier tout. J'ai plus mal, j'ai plus rien, je peux danser, je peux faire des choses que dans la vie courante, je ne pourrais pas faire.
La théâtrothérapie fonctionne, c'est sûr, pour certains patients, c'est sûr. Moi, par exemple, je ne prends plus de médicaments du tout, sauf quelque chose pour dormir. Et quand je suis un peu angoissé, je peux prendre un quart de je ne sais pas quoi, un quart très très léger. Pas besoin de prendre des antidépresseurs, des choses comme ça.
Je crois que dans mon cas, où la prise de médicaments est liée à des problèmes plus de fond, C'est clairement une thérapie non seulement alternative, mais plus de fond. J'attaque, ou j'essaye d'attaquer les causes. Avec les médicaments, on attaque les effets, ou les causes induites.
Ça me rebooste, quoi, en fait. Je suis tout à fait reboostée après.
Ça m'a aidé à avoir de l'estime pour moi.
C'est aussi pour oublier et ne pas aussi rester tout le temps enfermé, mais participer à la vie sociale qui est très importante et ne pas se renfermer tout le temps. Il faut s'ouvrir à ce genre de choses-là. Mais après la séance de théâtre-thérapie, je me suis senti non seulement soulagé, détendu, plus gai, plus communicatif. Voilà, et je me suis vraiment senti boosté en fait, très boosté.
Ben déjà de mettre ses idées sur autre chose que sur le produit qu'on peut employer, par exemple, dans le problème des addictions, que ce soit médicaments, que ce soit alcool ou que ce soit d'autres choses, peu importe. En tous les cas, on quitte la problématique au moins pendant le temps qu'on joue et pendant la séance de théâtre-thérapie, ça c'est clair. C'est déjà pendant une heure que... Dans tous les cas, une heure et demie même, on ne pense pas à cette chose-là.
Thierry et Stéphane considèrent même que le travail en théâtre-thérapie devrait être plus conséquent, en adoptant notamment des horaires plus longs ou opter pour plus de séances par semaine.
S'il y en a deux, j'irai probablement deux fois.
En matière de temps, c'est peut-être court. Voilà, peut-être pour certaines personnes, il faut peut-être un peu plus de temps. Au lieu de faire ça en une heure et demie, peut-être faire ça en deux heures. Et ça dépend aussi du nombre de personnes qui veulent...
Et pourquoi ça?
Parce que certaines personnes ont peut-être plus de tendance, il leur faut plus de longtemps pour oser, voilà. C'est que si on aurait peut-être fait une demi-heure en plus, hop, on va quand même se lancer, et tant pis pourtant, voilà. Mm-hmm. Donc un petit laps de temps, peut-être un peu en plus, ce serait peut-être pas plus mal.
Pour l'ergothérapeute Hélène Lespinet, proposer des séances plus longues n'est pourtant pas une bonne idée car ce serait trop fatigant pour certains patients aux pathologies lourdes. Cependant, l'atelier va tout de même être repensé et reconstruit dans les prochains mois car le départ à la retraite d'Étienne Zaït amène quelques bouleversements. Frédéric Roland, médecin résident à l'hôpital de jour Paul Civadon.
On va le laisser un peu reposer une fois qu'Étienne sera parti. Ça va s'arrêter quelques semaines ou quelques mois. Et puis j'ai demandé à Hélène qu'elle reconstruise le projet à sa façon, et en voyant aussi dans l'équipe qui veut reprendre avec elle. Et donc Hélène va recréer l'atelier avec un autre membre du personnel, mais il faut voir si chacun a envie de le faire et comment après. Donc se réapproprier cet atelier d'une autre manière.
Pour Hélène Lespinet, il est primordial que l'atelier soit animé par deux thérapeutes. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un pour reprendre l'atelier. Elle veut donc se laisser du temps.
L'idée, effectivement, c'est qu'il faut trouver un thérapeute qui serait intéressé. Maintenant, il y a beaucoup de remaniements dans notre équipe. Il y a une partie de l'équipe originelle, je dirais, de l'hôpital de jour qui a quitté. Donc, il y a eu beaucoup de départs. Et Étienne fait partie de ces personnes-là. Et donc, je pense qu'il faut se laisser un peu de temps pour trouver quelqu'un qui souhaite le faire et qui prendrait plaisir à animer cet atelier de théâtre-thérapie avec moi.
Et si vous avez du mal peut-être à trouver une personne qui a l'envie ou qui se sent les capacités aussi, parce que je pense qu'on peut parler de capacités, c'est peut-être lié au fait qu'il y a peu de formations ou que les formations ne sont pas claires par rapport à l'art-thérapie ici en Belgique.
Alors effectivement, c'est compliqué de trouver des formations. Cette question-là, elle me concerne particulièrement parce que je n'ai pas de formation à proprement dite. Et c'est une question aussi qui me vient. Est-ce que après le départ d'Étienne, je vais toujours appeler cet atelier théâtrothérapie? Je ne sais pas parce que je ne suis pas théâtrothérapeute.
Pour les patients, ça signifie quoi? Ça signifie une pause bientôt de quelques mois au niveau de la théâtre-thérapie ici à Brugmann?
Voilà, tout à fait. Donc après le départ d'Étienne, il est prévu effectivement une suspension de cet atelier, ce qui nous permettra de réfléchir aussi à cet atelier, ce qu'on peut amener de plus ou de moins, ce qu'on peut mettre en place. Et puis si il n'y a pas de deuxième thérapeute, alors mettre en place les choses différemment, peut-être un atelier d'expression corporelle sans moment de parolie à proprement parler, mais juste un travail d'expression avec un soutien de technique. Mais ce ne sera pas le même travail, c'est encore quelque chose de différent.
Pourtant, comme nous l'avons entendu, le temps du parolis reste un moment essentiel pour les patients. Trouver un second thérapeute qui assisterait Hélène Lespinet pendant l'atelier de théâtrothérapie paraît donc important pour les bien-être des hospitalisés. À l'heure actuelle, personne ne s'est encore proposé. Serait-ce dû au fait que la pratique de théâtrothérapie reste encore fort méconnue en Belgique, ou bien qu'il est difficile pour certains de se sentir théâtrothérapeute alors que la profession n'est toujours pas reconnue dans notre pays ? Le manque de formation en théâtrothérapie freinerait-il les thérapeutes à se porter volontaires pour reprendre l'atelier ? Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Malheureusement, même si d'autres ateliers sont proposés à l'hôpital de jour Paul Civadon, la théâtrothérapie a peut-être définitivement fermé ses rideaux, à la grande tristesse de nombreux patients.
Y a-t-il une vie sans le théâtre ?